and cover.
Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about.
J'ai une forte croyance de médium que le monde prendra feu le soir du nouvel an.
Dites donc, c'est un peu bref comme délai.
Sacrifice humain, chien et chat couchant ensemble, hystérie collective,
mers et rivières en ébullition,
40 ans de ténèbres et éruption volcanique,
les morts qui se lèvent de leur trompe.
Merde, j'ai pas du tout vécu dans l'optique que Dieu existait, moi. C'est vrai qu'il aurait pu prévoir qu'il y avait un Dieu là-haut.
Si c'est vraiment la fin du monde où les gens bien meurent tous, il est encore là, toi aussi.
Non, moi je suis un vrai nounours que tout le monde adore.
Vos péchés vous seront lus, sans interruption. On se relaiera durant l'éternité.
Oh, mollo mollo, mon coco. Tu bosses pour qui, déjà, hein? T'es qui pour juger les autres?
Hé hey! D'être des foireux, ça fait partie des droits de l'homme. Cette civilisation a été fondée sur des foirades, même que je vais te dire, j'en suis vachement fier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors on va rentrer dans le détail puisque elle est nouvelle sans être nouvelle, mais elle se suffit à elle-même. Et cette émission, donc, c'est la fin absolue du monde. Je ne serai pas seul, donc Mehdi Dez pour présenter cette émission, parce que si vous suivez un petit peu les productions d'Ez Podcast, vous êtes habitué parce qu'il y a une personne en face de moi qui se surnomme Fody. Salut Fody.
C'est bien ça, merci.
Et un certain Sébastien que beaucoup sur les internets connaissent sous le nom de TMDJC, donc pour les rassurer, même s'ils auront reconnu à ta voix si c'est des vrais fans, je donne aussi ton pseudo en plus, ouais, de ton prénom à Civil War, quoi.
Les deux passent, des fois on m'appelle Temchke aussi, enfin, ça marche aussi. Bonjour, vous allez bien?
Très bien. On a été plus quand Tony Stark, on parlait d'Iron Man juste avant de commencer.
Oui, donc surtout que c'est comme ça que j'ai débuté un petit peu sur Bagro Point. En fait, j'étais le sosie français de Robert Downey Jr. Donc tu vois,
voilà.
Je veux dire, bon, la boucle est bouclée.
C'est parfait. Et on va parler de fin absolue du monde, alors c'est un peu contradictoire parce que finalement, même quand vous aurez écouté ce podcast-là, elle ne sera pas si absolue que ça, mais on va essayer de vous dire de quoi il est question. Je pense que la personne la mieux placée, c'est l'instigateur de ce projet, même s'il s'est vite imposé comme quelque chose qui nous tenait à cœur tous les trois, bah, c'est Fody. C'est de peut-être en quelques mots,
donner quelques pistes.
Ouais, voilà, de quoi il sera question dans la fin absolue du monde,
alors,
et ce titre-ci.
Alors tout d'abord, il y a un hommage à John Carpenter,
ouais,
qui d'autre, puisque La fin absolue du monde, c'est un film qui est diffusé dans le segment Cigarette Burns, réalisé en 2005 pour la série Master of Horror. Donc c'est un film qui rend littéralement fou les gens. Donc on espère que le podcast ne va pas faire de même.
Non, on aimerait bien, non.
Voilà, derrière ce titre, il y avait peut-être l'ambition, non pas de sombrer dans la collapsologie, mais
oui,
plutôt d'essayer de faire un état des lieux de la pop culture, des éléments politiques qu'on peut trouver dans la pop culture, avec une impression peut-être fausse qu'on était arrivé au bout de quelque chose.
Mm-hmm.
Mais évidemment, on va tâcher d'être audible et sympathique.
C'est ça, on va faire mieux que ce peut.
Juste peut-être rajouter un tout petit truc par rapport à ça. La fin absolue du monde, enfin, on en a beaucoup parlé tous les trois quand on s'est lancé là-dessus. Là aujourd'hui, on a une émission qui est en pause, qui est
oui,
on va fermer Il est tard. Et
l'anticipe, c'est parfait.
Qui, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ADN de cette émission qu'on avait aussi envie de continuer à proposer. Et puis, tu l'as dit, Fozzy, juste avant, on n'hésitera pas à parler d'éléments politiques dans cette émission. Ça fait un bout de temps qu'on se disait qu'on avait aussi envie de parler de ce sujet, et il y a quelque chose de... Alors on a plein de types de podcasts différents en France, il y en a même certainement que moi je ne connais pas qui parlent de politique, c'est tout à fait possible, mais de ce que j'ai pu voir, c'est où on cherche à mettre le curseur vraiment à fond pour dire on peut rire de tout, etc. On va vraiment pouvoir pousser à fond les ballons, et à l'extrême inverse, il y a quelque chose de très posé, de très calme, où on va essayer de pas trop faire de vagues. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de ne pas se donner ce type de limite. Nous, on n'a pas envie de choquer les gens, mais on voudrait effectivement pouvoir parler de choses qui peuvent être des fois considérées comme limites, et de ne pas s'interdire du tout de sujets. C'est aussi ça, cette émission.
Oui, je pense que c'est ce qui nous rassemble. Non, moi, pour te répondre, Sébastien, tu vas pas trop loin, et c'est, si j'ai posé la question, même si les gens se disent pourquoi c'est aussi long comme introduction, c'est qu'on pose finalement le socle de cette émission ensemble, et je dirais presque faire ça, il y a un truc, je dirais, solidaire, qui est,
la, je pense,
ouais, qui est un peu l'ADN de cette émission, pour compléter et enfin démarrer l'émission par rapport à ce qu'a dit Fodzi. Oui, il y a cette intention, même si je nuance de plus en plus le terme vulgarisation pour ma part, mais en tout cas, je pense par rapport à ce que disait Sébastien, on sera entier. Je pense que ça s'est senti de plus en plus dans On va fermer Il est tard, comme le précisait Sébastien, qui est en pause et à qui on fait un énorme coucou.
Merci.
À Séphirin.
Ouais. Gros gros bisous.
Voilà, et ça me permet de dire que ça s'est imposé naturellement, comme une évolution Pokémon ou Saiyajin, vous voyez, la culture pop là où vous voulez, d'être dans quelque chose de tranché où on assume nos opinions. Donc on sera, j'ose espérer, rarement tiédas sur nos opinions. C'est un peu la marque de fabrique de l'émission. Voilà, après cette longue introduction, on va poser justement ce vers quoi s'est dirigé notre choix de sujet, qui a été motivé. Alors, tout ne sera pas orienté autour de cet événement culturel qui sera terminé fin du mois de juillet.
Je crois qu'elle est quasiment terminée.
Oui, je crois
terminé.
Qu'au moment où vous entendrez cette émission, voilà. De toute façon, ce sera fini.
Voilà, qui était l'exposition Rouge, qui a eu lieu au Grand Palais. Et en l'occurrence, bah, voilà, assez vite, elle a rejoint, pas pareil, vu que non seulement c'est la première, et c'est aussi avec toi que c'est un petit peu construit les choses, te laisser donner l'angle d'attaque de cette émission. Si c'est Rouge, il sera question donc,
de soviétisme.
Bah, voilà, au hasard. Et voilà, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on s'axe sur cette émission.
Alors, la lettre d'intention, elle est en plusieurs parties. La première partie, ce serait une petite chronique de l'exposition avec un parallèle que tu vas faire autour de The Red Sun.
Ouais.
Et puis ensuite, on va prendre un tout autre registre qui reste quand même assez familier, qui est le cinéma reaganien des années 80. Donc toute cette période de films avec les Rocky, Rocky 4, les Rambo, les Chuck Norris avec Invasion of USA. Essayer d'expliquer pourquoi à un moment donné dans l'histoire du cinéma américain, le russe est devenu une figure obsédante du cinéma d'action.
C'est un petit peu notre angle d'attaque, et effectivement, pourquoi cette obsession et comment elle s'est exprimée sur des exemples que tu as pu donner plutôt 80-90 et des exemples plus proches de nous, en l'occurrence Red Sun. Donc on revérifiait avec
2003.
Sébastien tout à l'heure, 2003. Sans transition, parce qu'on en a fait suffisamment avec l'introduction, je me jette à pieds joints dans cette histoire, à savoir donc Red Sun de Mark Millar. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est Superman Red Sun en l'occurrence, donc tout est un petit peu dit, et puis même si vous ne l'avez pas lu, ne serait-ce qu'avec le titre, vous pouvez avoir un ordre d'idée. On est dans ce qu'on appelle une uchronie, donc pour nommer ça simplement, c'est qu'est-ce qui se serait passé sur une base de faits historiques réels si à ce tournant-là les faits historiques avaient pris cette orientation-là. Le grand classique, c'est qu'est-ce qui serait passé si les nazis avaient gagné effectivement la Seconde Guerre. Fodzi ?
Alors, DC est assez coutumier, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été consacrés à ces uchronies, donc des what if.
Ça, voilà, c'est ça, c'est le terme technique dans le monde des comics.
Il y a Flashpoint Paradox, que j'ai pas lu. Par contre, ça je l'ai vu, c'est la Ligue des Justiciers Dieu et Monstre, et dans lequel la Justice League est une Justice League beaucoup plus violente. Donc avec donc avec un Superman qui a été en fin de compte adopté par le général Zod et qui est tombé aux États-Unis dans un camp d'immigrés. Un Batman qui pour le coup est devenu une vraie chauve-souris, donc qui s'est injecté un virus et qui a un besoin de sang, et une Wonder Woman qui est pas la Diana mais un autre personnage qui a dû épouser le fils de Darkseid et qui est un personnage beaucoup plus violent et beaucoup plus va-t-en-guerre.
Donc c'est pas leur premier coup, mais en l'occurrence bon, il est assez emblématique parce que bah il a été plutôt pas mal mis en avant, parce que aussi si vous n'êtes pas familier avec le monde des comics, bah Mark Millar c'est quand même un très grand nom, c'est je pense un des types notables avec
des plus connus,
des Morrison, et de manière peut-être un peu plus mainstream, moi je le trouve un peu plus doucereux dans ses thèmes qu'un Bendis par exemple. Voilà, c'est vraiment parmi les noms, c'est peut-être ceux qu'on retiendra le plus facilement, oui.
C'est surtout celui dont les adaptations ont connu le plus de succès de façon cinématographique.
Wanted, Kick-Ass, si je ne m'abuse. Ouais. Oui. Voilà, entre autres, pour ne citer que
le Logan aussi.
Que cela.
Le Logan, oui,
effectivement. Alors là, quelle est la proposition? C'est très bien, Fozzy l'a dit, donc moi, ça m'évite de m'apesantir un peu plus. On est sur une uchronie donc, qui rejoint un concept très connu de DC et Marvel également, qui sont les What If, que se serait-il passé si. Et là, l'idée, elle est très simple, même que vous connaissiez de près ou de loin Superman. Qu'est-ce que se serait-il passé si Superman n'avait pas atterri aux États-Unis, mais plutôt dans la Russie, donc soviétique.
Ce qu'on dit, en fait, c'est tout simplement, en fait, ça se joue à quelques minutes. En fait, il y a un décalage de quelques instants. Et comme la Terre tourne, Superman a juste, en fait, décalé son point d'atterrissage.
Et en l'occurrence, il y a évidemment, sur une annonce pareille, il y a toujours un truc très tarte à la crème. Hein, ça, je pense que si vous êtes venu découvrir cette émission-là, vous allez vite avoir ce bagage qui vous permet de vous dire ça. Mais le premier truc qui, à l'époque, m'avait rassuré à la lecture et dans l'après-coup, c'est un truc tout bête. Je savais que c'était Millar, et je savais que Millar n'était pas américain. C'est bête, hein, mais il est anglais, donc je me suis dit, peut-être que dans le traitement, je pense ne pas m'être trop trompé, mais globalement, je trouve que c'est peut-être une des choses qui a été les plus réussi en termes d'écriture sur ce genre de sujet, ou de, en tout cas, de décryptage, de lecture de la Russie soviétique, qui a pu être fait en comics. La scène d'exposition est très intéressante, moi je trouve, dans le comics, parce que effectivement, Sébastien vient de nous le dire, et y a tout ce basculement, en fait, dans le traitement aussi visuel, sur les visuels adaptés, plus ou moins, soit noir et blanc ou sépia, etc., de l'info, et toute cette dimension de traitement
rouge,
médiatique.
Évidemment, très rouge.
Ça, il n'y a pas de surprise. Mais au-delà du très rouge, c'est aussi les moments où les Américains, face à l'annonce des communistes venant asseoir et enfoncer le clou de leur puissance avec l'acquisition, je l'utilise volontairement, d'une nouvelle arme qui est ce Superman, ont cette réaction complètement outrée, c'est-à-dire c'est affreux. Il est présenté, alors il y a les renversements de code, il y a les mêmes codes du c'est un avion, c'est un oiseau, non c'est Superman, et on voit effectivement toute la population américaine qui s'offusque, qu'est-ce que c'est que cette propagande, et voilà, donc déjà, je trouvais ça, en termes d'exposition, assez habile.
Il y a surtout le fait que c'est Staline en personne qui va introduire Superman. Avec toute la tension qu'il y a entre lui, l'appareil d'État, cet alien surpuissant, et le fait que Staline a un fils qui s'appelle Piotr Rostov, qui est lui chargé de sa garde personnelle et même de l'organisation de l'appareil de parti, qui se retrouve avec cet enfant de Krypton qui est surhumain, qui peut tout, et donc lui, en tant que garde du corps de Staline, se retrouve inutile.
Oui, relayé vraiment.
Et puis ce qui est incroyable dans la manière dont c'est exposé, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, c'est en fait les Américains ont très peur, en fait, finalement, de ce qui se passe. Et en fait, il y a même toute une planche où ils sont en train de dire, en fait, ils ont tout gagné, les Russes. Ils ont gagné la conquête spatiale, ils sont en train de faire une liste, en fait, finalement. Les Américains sont les grands perdants du conflit qui peut les tenir entre eux et les Russes. Et Superman, c'est le clou qui vient finir le cercueil, ils peuvent plus rien faire.
Et c'est pour ça que le gouvernement se précipite donc chez Lex Luthor, qui devrait, en tant qu'homme le plus intelligent du monde, trouver...
Et Marie de Lois Lane dans cette univers.
Merci, c'est ce que je voulais dire.
Donc trouver une solution. Alors, petite chose amusante, c'est qu'il est constamment représenté avec une sorte de blouse scientifique.
Oui.
Alors, pour les connaisseurs, ça le fait ressembler au Docteur Horrible de Josh Whedon.
Et il est en train de jouer en quasi-permanence, qu'il agit géopolitiquement avec des parties virtuelles d'échecs avec des adversaires en présence ou à distance. Donc ça lui donne un côté très monomaniaque, surdoué, assez sympa.
Et toujours aussi fou d'ailleurs, parce que le personnage est vraiment dessiné de manière, dans ses yeux, dans son regard, on a vraiment le sentiment que il y a un truc qui continue à tourner derrière entre ce qu'il dit.
Mégalomane, fidèle à lui-même.
Mais mégalomane avec l'assurance que le gouvernement est derrière lui.
C'est ça, ouais. Il a, en fait, il se sait, avant même que ce soit officiel, tout pouvoir.
C'est pour ça que je prenais vraiment le terme mégalomane complété par Foddy, dans le sens où la folie, en fait, entre guillemets, n'a rien à voir quand on sait qu'il y a des institutions derrière qui soutiennent. On a trop souvent de parler de folie quand des institutions soutiennent un mouvement. Mais voilà, bon. On vous avait dit que ce serait la signature de...
Exactement.
De la fin absolue du monde. Et en l'occurrence, on a... Je dirais, si Sébastien vous parlait de liste, si on devait faire une checklist, les hommages et les parallèles avec la grammaire et les codes de référence du comics et de DC Comics sont très réussis. Vous avez cette scène d'exposition, vous avez une séquence où Superman vient aussi sauver sur les terres américaines, effectivement, je crois que c'est une chute d'un satellite ou un truc comme ça.
D'abord d'un satellite, oui, et puis le satellite va faire que ça va toucher le Daily Planet, donc il y a la planète qui se casse la figure, et en fait tu le vois sauver un petit garçon et sa maman en
lui donnant son ballon.
Et en lui tendant son ballon.
Donc on a, voilà, cette, vraiment la scène d'exposition, je dirais, prolongée, ça marche aussi bien que la scène d'exposition de Up, là-haut, de Pixar. Voilà, je vous renvoie encore une autre référence qui n'a rien à voir, mais là-dessus, c'est très maîtrisé. Alors, ensuite, on a la partie dont parlait Sébastien, donc ce fameux Piotr Rostov, donc fils de Staline, et j'ai beaucoup aimé, justement, ce basculement-là, je le trouve très très subtil, quelle est ma place encore auprès de lui, etc. Et c'est là que je trouve que le niveau du comics, le bas commence à blesser, parce qu'il y a cette dimension extrêmement générosité démesurée, enfin aussi forte que ses pouvoirs, je dirais, de Superman, de se dire, il le répète, hein, même à Staline, quand il se préoccupe du parti, etc., il lui dit, moi mon but c'est de prendre tout le monde en compte, et il va quand même, dans un échange avec Staline, à lui dire, écoute Joseph, faut que je te laisse, il y a ton fils qui était pas venu à la réunion du parti, et commence à avoir un échange avec lui, avec une phrase que j'ai trouvée très intéressante et très emblématique dans l'écriture de Millar. Il lui dit, donc Rostov lui dit, quand Superman est un peu dans l'empathie, essaye de le rassurer, you are the opposite of Marxist doctrine, Superman, living proof that all men aren't created equal. Donc ça veut dire, tu es l'opposé de la doctrine marxiste, tu es la preuve vivante que tous les hommes ne sont pas créés comme étant égaux. Et là, commence un petit peu à s'amorcer, je dirais, le truc, je dirais pas contradictoire, mais on va un peu dérouler tout ça. Oui.
Alors il y a le côté un peu tarte à la crème, c'est que véritablement le Superman de Millar, le Red Son, c'est une caricature de Superman. C'est-à-dire qu'il est encore plus désintéressé, il est encore plus au service de sa patrie qu'il ne l'a jamais été dans les différents comics lorsqu'il était venu dans le camp américain. Ouais. Et c'est à tel point que finalement les femmes qui peuplent sa vie ne l'intéressent pas.
On a, j'enchaînerai juste après, mais tu mets vraiment principalement le doigt sur ce qui m'embête et l'angle de là dans cette émission sur Red Son. On a l'impression qu'il y a une espèce de trame de culpabilité permanente, c'est-à-dire se dire on peut traiter du communisme et on va essayer de le faire de manière différente, et ça vire un petit peu à une tendance bisounoursesque, on va dire, c'est tout est beau, tout est joli, donc si maintenant on peut traiter du communisme avec le recul qu'on en a et le fait que quand même les Américains et nous, notre pop culture occidentale, au sens large, on a été des salauds sur la représentation jusque-là, un peu comme si on s'achetait seconde chance en faisant ça dans Red Son.
Il a une manière de décrire finalement, parce que son enfance n'est pas écrite, mais on y fait référence à de nombreuses reprises,
ouais.
Et la justification c'est qu'il a été élevé comme ça, c'est-à-dire que clairement il a été élevé de manière à ce que la patrie passe avant tout le reste, donc le peuple de manière globale, et il a pris pour argent comptant, sans mauvais jeu de mots, cet aspect-là pour en faire son mode de vie. Et effectivement, quand on le regarde de l'autre côté, on sait très bien, alors moi je suis pas russe, j'ai de la famille de ce côté-là, mais j'ai été élevé en tant que français, avec des codes français, et etc. Mais on sait que, voilà, on n'est pas stupide, on sait que vivre en Russie, on est d'accord que c'était pas rose. Si effectivement l'angle qui est pris de l'œuvre de Millar ici, est de effectivement peut-être se racheter une sorte de conduite pour dire, peut-être on a un peu tiré à boulet rouge sur les Russes, et peut-être ce serait intéressant de voir, très drôle, et ce serait intéressant de voir justement dans quelle mesure on n'a pas su voir certaines choses. Et je pense qu'il y a un parallèle d'ailleurs à faire là aussi avec ce qu'on a vu au Grand Palais, notamment donc sur Rouge.
Oui.
Mais pour terminer et clore mon propos, je ne sais pas si c'est tarte à la crème, je ne sais pas si c'est bisounours, certainement que ça l'est.
Moi je pense, mais je suis quand même assez convaincu.
Ce qui est intéressant, en fait, on ne regarde pas une œuvre russe, on n'est pas en train de lire un Superman russe véritablement, on est en train de lire une œuvre qui est la vision d'un Anglais qui vit aux États-Unis de comment ça se serait passé si Superman était russe.
C'est encore, ouais.
On est vraiment dans quelque chose de c'est un prisme, c'est une idée, c'est une proposition, et c'est pour ça que je ne sais pas dans quelle mesure en fait je le lis en tant que bisounours Nico Hawkes, parce que de toute façon ce n'est pas la réalité. Elle est intéressante parce qu'elle met en lumière nos propres défauts. Je dis nos propres défauts, je ne parle pas de nous en tant que Français, mais vraiment le côté américano-européen.
Justement.
À travers ça. Alors, c'est biaisé, c'est maladroit.
Forcément.
Mais c'est un outil.
Mais quand je te dis bisounours, c'est justement dans cette dimension, alors je vais être un peu réducteur, mais très judéo-chrétien, quoi, de cette idée qu'on se rachète comme ça une seconde chance par ce traitement-là qui est, entre guillemets, plus juste, mais mainstream.
Mais au-delà de tout ça, je pense que vous allez comprendre assez vite, c'est qu'il ne va pas être question de Russie, mais plutôt de comment se définit en creux l'Amérique en expliquant ce qu'étaient les Russes et les soviétismes.
Voilà. Et en tout cas, Sébastien, tu as souligné un point qui, je pense, qui reviendra souvent dans nos émissions, qui c'est qui parle en fait du sujet. Ça, c'est quelque chose qu'on a très fortement dans les sujets d'actualité aujourd'hui, que ce soit sur la dimension de discrimination, de se dire c'est très bien d'engager effectivement un point de vue, mais il y a toujours la préciosité des personnes concernées bien sur sûr, un ouais. sujet.
Il y a un truc très important lorsque on vous fait des leçons d'histoire, comme le font notamment les politiques, c'est que l'histoire est toujours vue sous le prisme d'une espèce de grande continuation où finalement chaque acteur politique est au fond un peu l'héritier des réformes de ses prédécesseurs.
Ouais.
En gros, les politiques s'inscrivent dans une logique de dire je suis le continuateur de, alors ouvrez les guillemets, Napoléon, les pyramides, le code civil, voilà, les Gaulois.
Les garants d'une certaine culture voilà. en fait finalement, comme si c'était représentant d'eux.
Mais voilà, pour accrocher les wagons, pour accrocher les wagons, le fait est que dans la discipline et dans l'explication universitaire de l'histoire, il y a une chose qui est très importante. C'est d'expliquer l'histoire non pas à partir des grands hommes, mais plutôt d'expliquer quel était le paysage intellectuel, culturel, moral des personnes qui parlaient. Et quand on fait une chronique de l'histoire où on explique que finalement l'histoire est une grande continuation, c'est pas le cas. Ça n'existe pas.
Et c'est là où on voit finalement que le projet Redson, même s'il y a des éléments... Enfin, personnellement, je vous invite vraiment à le lire, ne serait-ce que sur le fait de vous tailler, comme toutes les œuvres qu'on va vous conseiller ici, hein, même si vous êtes en désaccord, nous, on est toujours des fervents supporters de l'idée de les voir et de vous faire, une opinion. Mais voilà, là, comme je disais, où le bas blesse, donc ce sont ces dimensions-là. Il y a une deuxième partie, faut-il l'expliquer en filigrane, est-ce qu'il y a d'autres personnages? On aura le personnage de Bizarro, et puis surtout on aura le personnage donc, de Wonder Woman, qu'il rencontre à une soirée mondaine assez vite dès le premier numéro, et où là les enjeux, alors c'est intéressant parce que ça donne une figure de good guy à Superman, si tant est qu'il en avait encore besoin d'une dans une version alternative, au sens où effectivement Staline, son obsession c'est que ça marche bien pour qu'il puisse faire des héritiers de son parti, hein, de
on
ce fantasme.
On est presque dans une logique de Hara.
Oui, oui, complètement, complètement. Bon, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est quand même un petit peu évacué de ce qui aurait pu avoir comme enjeu et comme réflexion peut-être un peu plus poussée.
Je nuance juste la notion de good guy, c'est juste qu'on est en 2003 et que c'est à une époque où Superman est un personnage qui va commencer à être à nouveau recreusé, parce qu'au départ, c'est vrai que Superman, c'est le gentil, point final. Mais c'est vraiment une époque où on veut le tuer, on veut le réinviter, on en fait parfois une sorte de fasciste, en fait, dans ses idées. Donc, le côté good guy de Red Son, il est nuancé par toutes les productions de l'époque aussi.
En gros, le principe de Red Son, c'est que c'est un bad guy qui s'ignore.
C'est ça, oui. Pour moi, c'est plus ça. Il veut être en droite ligne, pour moi, de ses idées, de la manière dont il a été élevé. T'as l'impression, en fait, qu'il tire ses lourds bagages, en fait, avec lui et qu'il doit être, à la star des grandes statues russes, il doit être nickel. Et en fait, il oublie certains aspects de ce qu'il peut être et de le danger qu'il peut même représenter pour coller à l'image qu'il croit devoir donner.
Mais ça, c'est un récit qui s'est construit sur l'héritage de The Dark Knight de Miller, ou dans lequel... Superman est une icône, c'est même pas un être humain,
c'est une image. Hein.
C'est une image et dans lequel l'intérêt c'est plutôt ce que Bruce Wayne va projeter sur Superman et comment il va réussir à le déboulonner. Puisque voilà, enfin le sous-texte de tout ça, c'est de dire que Superman il est la transcription exacte de l'idéologie environnante. Il sera ni plus ni moins et il cherchera constamment en tant qu'étranger, en tant qu'alien, d'être le porte-parole des dominants. Et donc d'une certaine façon, de chercher une crédibilité de la part du pouvoir en place.
Mais malheureusement, ça ne va jamais plus loin. Tout cas, vous avez les idées, je dirais, en germe de tout ce qui a été évoqué par Fozzi, Sébastien et moi-même. Moi, je vous invite, au-delà de lire l'œuvre, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de la relire, un article qu'on vous mettra en lien. En plus, il est gratuit. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Tim Lanzendorfer et qui a écrit donc, un article très intéressant sur les limites, effectivement, de Red Son. C'est pour ça que je ne voulais pas aller trop loin, ni dans l'intrigue du comics, pour vous laisser vraiment pleinement essayer de vous faire au maximum votre idée. Et puis de prolonger sur ce qu'on a pu vous dire, donc il s'appelle Superman, Red Son and the Politically Unconscious Hand of the Cold War, donc Superman, Red Son et la vision politique inconsciente de la fin de la guerre froide. Donc voilà, là lui il explique très clairement, hein, pour vous résumer son article si vous n'avez pas forcément l'envie ou le courage de le lire, que en s'appuyant sur des lectures d'historiens et de littéraires comme Umberto Eco, qui a fait beaucoup de lectures et de relectures de Superman, que ça fonctionne pas et on arrive soit sur un copier copier-coller de la vision capitaliste d'une certaine Russie, ou alors on arrive sur un truc un peu tiède qui fait que bah, y a rien qui est exploré jusqu'au bout de ce qu'aurait pu permettre cette uchronie. Voilà, en tout cas pour moi, c'est ma fin absolue du monde momentanée.
Bah, c'est un peu les limites du système Millar. C'est, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'il a de très bonnes idées, mais qu'il ne sait pas les développer.
En fait, il faudrait qu'il bosse avec d'autres personnes. C'est un peu ce que je pense de ça. On en parlait effectivement en off tous les trois tout à l'heure. Et c'est vrai que pour moi, il fait en général un très bon premier volume qui vraiment est accrochant. Avec un, en plus, les idées sont bonnes, mais elles sont simples. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose de très compliqué, en fait, finalement, chez Millar. Et quand il arrive, là, l'idée, c'est OK, qu'est-ce qui se serait passé si Superman est russe ? Le principe, il est carré. Tu as ça, tu dis, mais génial, le premier volume t'accroche. Et après, tu as deux volumes qui sont en descente et tu dis, mince.
Et il y a surtout le fait que Staline, en russe, veut dire l'homme d'acier.
Oui.
Je me souviens plus de ça.
Et que Superman s'appelle quand même Superman en russe.
Voilà.
Mais voilà, après c'est un autre débat.
Non, on est d'accord. En tout cas, ça me remémorait un autre comics que je trouvais peut-être un peu plus drastique dans le traitement et plus intéressant que ce Red Son. C'est Supreme Power, que je trouve justement par aspect dans le côté complètement jusqu'au boutiste, très intéressant, qui explore effectivement des dimensions du champ de... On parlait de mégalomanie, mais à la limite, effectivement, de la dangerosité pour un parti, voire pour le monde, parce que ça prend vraiment une portée complètement folle hein, dans Supreme Power. En tout cas, je vous en reparlerai certainement. Je vais m'arrêter là, en tout cas pour ma part.
Une petite parenthèse, du coup, Red Son, il est trouvable aujourd'hui encore très facilement. Il a été réédité en 2013 et c'est voilà.
Justement, lors de l'exposition, il y avait pas mal de volumes en présentation.
Moi, je sais que je peux être assez critique, mais ça reste pour moi un très bon Superman parce que moi, je suis pas un supra fan de Superman. Je suis très content de l'avoir lu et ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je vous invite à le lire.
Et visuellement aussi, on l'a pas beaucoup souligné parce qu'on a beaucoup insisté sur l'écriture. En tout cas, disponible effectivement en VF parce que nous, on n'a pas trop de scrupules par rapport à ça aussi. Si vous n'en avez pas forcément les moyens, on est sensible à ça. Il est lisible en ligne en anglais exclusivement. Peut-être que si vous cherchez bien, il y a peut-être des versions françaises, mais voilà, vous connaissez quand même ce qu'on vous a dit au début du contenu de l'émission. Vous vous doutez bien qu'il y a quand même une dimension assez orientée vers ça. Puis sinon, il y a des médiathèques, bibliothèques, et je pense que vu qu'il était raccord avec l'exposition rouge, il y a certainement peut-être votre bibliothèque ou médiathèque qui ont pu l'acquérir. On va marquer une brève pause avec Ronnie Talk to Russia de Prince sur l'album Controversy, donc qui date de 1980 si je ne m'abuse, et qui était un choix de Fozzy.
Alors je suis pas sûr pour 80, c'est peut-être 82,
peut-être un peu plus... 82
on pourra peut-être rectifier ça. D'accord. Mais oui, enfin écoutez Prince.
Prince n'est pas mort, contrairement à ce que dit Modinor. Donc, on s'écoute le petit cul pour la référence jusqu'au bout, et puis on se retrouve juste après. We'll be right back. On se retrouve pour cette seconde partie, on va dire ça comme ça, si tant est qu'il y ait vraiment un séquençage absolu, contrairement au titre de l'émission, avec Fozzy qui va prendre le relais.
Ouais, avec un certain Rocky IV. Disons que lorsque on a posé le projet, ou plutôt le sujet, il était question de quel film pouvait illustrer le soviétisme tel qu'on l'a connu, et tout de suite j'ai pensé au cinéma reaganien des années 80, parce que on l'a connu, on l'a vécu même, parce que étant enfant, il y a beaucoup de cassettes que j'ai enregistrées, comme les Rocky IV, les Rambo 3,
Rambo,
voilà. Et donc on a vécu avec ce cinéma sans avoir la conscience de ce qu'il était, ce qu'il défendait et dans quoi il s'inscrivait. Et donc il y a eu l'opportunité avec ce sujet qui a été lancé de faire un état des lieux ou de comprendre ce qui s'est joué. Alors qu'enfant, tout ce que je voyais, c'était des types qui tiraient à la carabine en gueulant comme des gorées.
Qu'est-ce qui se passe?
Donc la première chose, ça a été de savoir ce qui s'est passé historiquement. Parce que finalement, le cinéma reaganien, il s'est construit après une période de détente. C'était une période de ce qu'on appelait la politique d'endiguement. Donc on était dans une...
Ah, moi j'avais Poetic Lovers. Poetic.
Et une double détente.
Donc une politique de non-prolifération. Donc en gros, les Russes, aussi bien que les Américains, essayaient de mettre la pédale douce sur le militaire, sur l'armement, tout en essayant de discuter avec ce qu'on vous connaissez sous le nom du téléphone rouge, qui évidemment n'était pas rouge, donc qui ressemblait plus à un fax. Mais voilà, c'était une période de discussion... avec bien sûr des tacles, des coups de pied au cul, mais en gros il y avait la conscience que le fléau nucléaire pouvait détruire les deux partenaires, et donc c'était pas une bonne carte à jouer. En plus, il s'inscrivait dans la logique de Realpolitik, qui était incarnée par quelqu'un comme Kissinger, qui était un des très proches conseillers de Nixon. Ce qui s'est passé et ce qui a joué dans le réchauffement de cette guerre froide, ça a été dans un premier temps l'invasion de l'Afghanistan, donc qui a lieu sous Carter en 79, puisque donc l'Afghanistan en 78-79, il y a une prise de pouvoir du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, donc qui était un parti sous l'égide communiste et qui en fin de compte cherchait un appui financier pour soutenir leur révolution. Donc une fois au pouvoir, ce parti a mis en place une vaste politique de laïcisation du pays. Mais du coup, cette politique est devenue l'objet d'une contre-révolution menée par les tenants d'un islam radical, et ce qui, au final, a plongé le pays dans la guerre civile.
Ouais. Tout ça s'appuyant sur des recherches d'appui financier également, parce qu'évidemment, tout ça demande beaucoup de moyens logistiques, mais évidemment pécuniers.
Il y a aussi la logique géographique, ce qui veut dire que le Pakistan était soutenu par les États-Unis et que l'Inde était un pays non aligné. Donc, pour la Russie, c'était une enclave qui était nécessaire et géostratégique. Et donc, il est normal, enfin, il est logique que la Russie, lorsqu'elle a vu le gouvernement qu'elle venait juste de mettre en place être complètement débordé par les révolutions islamiques, se lancer tout d'un coup dans la guerre pour essayer d'endiguer cette contre-insurrection. Et du coup, on est passé d'une logique d'endiguement à une logique de financement en sous-main. Donc toute la logique de Carter était de financer les organisations islamiques, donc en les approvisionnant en armes, en formation. Et donc Carter, qui avait fait son leitmotiv de campagne sur l'Afghanistan, sur le soutien à l'Afghanistan, en fin de compte, Reagan reprit ça en l'amplifiant et a été élu en 1980 sur cette logique de va-t-en-guerre, qu'il fallait durcir les relations avec Moscou et qu'il fallait non plus être dans la réelle politique, mais vraiment dans le combat et dans l'opposition frontale.
Là, on est officiellement dans le kikimaker, hein, dans les discours. Non, mais c'est vrai, dans les discours qui sont... Non, on rigole, mais c'est exactement ça. Et à chaque fois, les réponses qui étaient faites de l'un à l'autre, quand tu écoutes les discours d'époque, ils sont vraiment « j'ai pas peur de toi, écoute ce que je suis en train de te dire. Là, tu veux jouer avec moi ? Tu veux jouer ?»
La quête à la fusée.
C'est ça, mais ouais, c'est exactement ça.
Et qui aura la plus grosse fusée.
Voilà.
Parce que Reagan, en fin de compte, s'est construit sur l'idée qu'il allait à lui tout seul incarner le renouveau de l'Amérique. Vous avez pu le voir récemment avec Trump et sur Make America Great Again. Il y avait l'idée d'un volontarisme économique, d'un volontarisme militaire, même d'un volontarisme culturel. Le fait de dire que l'Amérique était un grand pays, qu'on avait dépassé le doute des années 70, où finalement il y avait une négation du héros américain tel qu'on le connaissait. Et tout ça, finalement, c'est devenu le corps de ce qu'allaient être les nouveaux dogmes et la nouvelle doctrine américaine.
Ça va très loin, parce que même sur certaines petites lois, je pense au fait de pouvoir notamment utiliser des productions commerciales pour en faire des dessins animés, par exemple, qui étaient interdits auparavant, l'arrivée de productions comme Les Maîtres de l'Univers, par exemple, ou ce genre de choses, où là, tu pouvais vraiment vendre, en fait, c'était de la publicité en dessin animé de 20 minutes, ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Reagan a complètement assoupli ça, et l'image même des États-Unis a radicalement changé, même par ces petites lorgnettes.
En gros, l'industrie culturelle ne se construit pas dans une déférence vis-à-vis de la politique. Alors, parfois, ils prennent le mort aux dents en disant « c'est l'actualité, il faut le traiter ». Et surtout, il y a le côté très pragmatique, c'est-à-dire que quand aujourd'hui la doctrine Reagan dit notre leitmotiv c'est d'expliquer que l'Amérique est grande et que les Russes sont des salauds, quand on met en place cette vision politique de l'Amérique, on a des subsides de l'armée américaine, c'est-à-dire que ils nous financent, ils nous prêtent des chars, ils nous prêtent des porte-avions, ils nous prêtent des hélicos. Donc si on veut faire un cinéma à grand spectacle dans l'Amérique reaganienne, si on adopte la politique actuelle, bah tout d'un coup, le film va bénéficier de sources de financement énormes.
Mais ce qui est incroyable, c'est que dans beaucoup de productions, finalement, que ce soit au cinéma ou même, je pense, à des séries télévisées hein, du grand public, certains épisodes de K2000 où vont intervenir des Russes notamment, on a toujours l'impression qu'il y a le méchant russe qui dirige, mais que de ce méchant russe, finalement, en fait, il y a les Russes qui subissent et qui aimeraient, en fait, finalement, être américains comme les autres Américains.
Ça, c'est toutes les histoires du grand Hollywood. C'est-à-dire, si tu regardes aussi les transpositions, là, je sais pas pourquoi, mais à t'entendre parler, j'avais des images des Sept Mercenaires, qui est une transposition d'un truc vraiment ancré dans la culture japonaise, du paysan japonais, une révolte qui vient d'une certaine raison, qui est transposée donc dans les Sept Mercenaires avec des Sud-Américains, pour faire basique, Chicago. Mexicanos qui se retrouvent effectivement comme ça à subir et cet élan américain qui vient les sauver de ceux qui peuvent pas penser, pas rallier une résistance suffisante. Voilà.
C'est le grand fantasme américain du libérateur, du white savior.
C'est ça.
Vous le trouvez dans toute l'histoire du cinéma américain. Alors un coup c'est l'Afghanistan, un coup c'est le Vietnam, ou un coup c'est les Japonais dans le dernier samouraï avec Tom Cruise. Mais, donc voilà, tout ça... C'est ce qui fonde un film dont on va parler là actuellement, enfin, qui est Rocky IV. Et Rocky IV, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a ce côté de dire, oui, mais finalement, le grand antagoniste de Rocky, qui est Drago, c'est
incarné par Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren, qui n'est pas russe, qui est suédois, malgré une mère ukrainienne.
C'est ça.
C'est pas le méchant, en fin de compte. Le méchant, c'est les officiels, c'est son manager, c'est son entraîneur, c'est presque même sa femme. Finalement, c'est une victime.
Mais elle était déjà méchante dans le film de Beverly Hills 2, donc c'est normal. C'est-à-dire, bon, à partir de là...
Mais voilà, au-delà de ça, Drago s'est presque montré comme un enfant, un type qui n'a pas toutes ses capacités, qui cherche constamment une approbation. Il y a toujours des plans où il recherche du regard son entraîneur ou les officiels pour dire...
Ou particulièrement sa femme, quand même. Ouais. Il y a vraiment, tu sens que c'est sa femme qui, d'ailleurs, très souvent, au moment où il va répondre à une question, elle lui coupe la parole et c'est elle qui répond.
Mais parce qu'il n'est pas en mesure de parler. Tu vois très bien, même sur la question du dopage, parce qu'à un moment...
Il n'est pas en mesure de jouer, diraient certains.
Ah bah, dopé n'est pas joué. Hein.
Je pense qu'il donne une meilleure prestation dans le Scorpion Rouge, ouais. On en parlera peut-être. Mais voilà, il y a l'idée qu'à un moment, le dopage est amené dans une interview et tu vois clairement qu'il est désarçonné et que c'est sa femme et l'officiel qui reprennent le contrôle, parce qu'il ne peut pas répondre. Mm. Et on sent très bien qu'il se dope, enfin, et c'est montré de visu dans le film.
Ah oui, il y a un plan, oui.
Et ça reprend le mythe du dopage, enfin pas le mythe, parce qu'il a réellement existé,
bien sûr.
Dopage russe, à la différence que il y a toujours eu un dopage dans l'histoire sportive, que ce soit dans le culturisme, même aux États-Unis, il y a eu beaucoup de...
Oui, c'est pas propre aux Russes, on est d'accord.
Mais la différence, c'est que les Russes ont institutionnalisé ça. Ça veut dire qu'il y avait véritablement des consignes officielles de dopage. Et notamment chez les nageuses et les...
gymnastes.
Les gymnastes est-allemandes, qui avaient des programmes de dopage qui étaient dangereux, puisque c'était du dopage à partir de testostérone.
C'est ça, ouais.
Alors pourquoi de la testostérone et pourquoi des nageuses ou des sportives est-allemandes? Parce que la testostérone, c'était une substance qui n'était pas contrôlée ou qui était mal détectée, et que d'autre part, le gain de productivité des femmes avec la testostérone est beaucoup plus important
que chez les hommes.
Oui. Et donc ça a conduit à rendre de très nombreuses femmes complètement stériles.
Et en France, bah, du coup, on avait moins le problème parce qu'en général, les personnes qui prenaient des substances en France, c'était souvent à l'insu de leur plein gré.
Bien sûr.
Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas cette volonté de vouloir se doper en France.
Et il y a aussi un autre... Je rentrerai pas dans le détail parce que j'ai plus suffisamment les articles scientifiques et d'actualité, mais il y avait aussi sur les dopages de jeunes femmes russes, enfin pour certaines même pas encore femmes hein, d'ailleurs, vu pour les gymnastes qui étaient très très jeunes, des méthodes, je crois, qui étaient autour, bah, tu parlais de stérilité, mais je crois autour d'avortement, qui bloquaient aussi plus ou moins leur croissance. Enfin, il y avait des trucs. Après, évidemment, il n'y a pas eu que la Russie,
dès qu'on était dans des totalitarismes. Entre 9 et 22 ans, de toute façon, l'écart des gymnastes professionnels là-dessus. Ouais.
Et puis surtout pour signaler que c'est des pratiques qui existent toujours, hein, puisque je crois que de 2005 à 2015, il y a eu véritablement des courriers qui expliquaient que le régime, puisqu'on n'est plus dans un régime, mais que le gouvernement de Poutine avait une politique de dopage institutionnalisée de ses sportifs. Mmh. Donc oui, ça existe toujours, mais pas qu'en Russie, un peu partout. Sauf que la différence, c'est que en France ou aux États-Unis, il n'y a pas d'institutionnalisation. C'est-à-dire que c'est vu à chaque fois comme des initiatives personnelles.
Ouais. Oui,
donc ça ne fait pas système.
Sébastien en parlait en plaisantant, mais Festina, voilà, il y avait eu pas mal de témoignages justement là-dessus, dont... la femme de Willy Wound, c'est ça
Si on ne fait pas preuve d'humour du tout, il y a eu des choses très dures. Hein, le problème, c'est qu'il n'y a pas de recul en fait, par rapport à ce que ça produit, parce que les sportifs dopés voient le gain de productivité à l'instant,
évidemment,
sans recul de ce que ça peut produire. Alors évidemment, on le dit en rigolant, mais ne vous droguez pas.
Oui, mais là, on parle d'une logique sportive et surtout de la logique sportive dans le capitalisme.
Et ce qui est compliqué avec ça, et on va forcément terminer sur cette parenthèse parce qu'on va faire tout un podcast là-dessus, mais c'est que quand tu as des athlètes de haut niveau comme ça qui font des qui cassent les records ou on n'arrive plus à savoir si c'est chouette, on est content parce qu'on se dit quel athlète, ou si on se pose la question à quoi il a été dopé, ça devient très compliqué parce que on parlait du désintérêt dans d'autres émissions de la politique parce que on a du mal à faire confiance. On sent qu'il y a aussi des gens qui sont complètement désintéressés aujourd'hui du sport à haut niveau parce que il y a des moments où on sait plus trop ce que ça veut dire en fait, quel est le message derrière.
Ouais. Donc voilà, pour accrocher les wagons sur l'entraînement sportif, il y a un motif dans Rocky IV qui est la mise en parallèle de l'entraînement de Drago et l'entraînement de Rocky. Alors l'entraînement de Drago, il est montré comme un entraînement ultra technique.
Complètement.
Même Drago est caractérisé comme...
Presque plus un objet ou un outil que...
Oui, comme le nouveau iPhone G5, G6.
mais pour aller plus loin, ce qui est très intéressant, c'est que vous remarquerez qu'il y a certaines images ou certains plans qui ressemblent très pour très en fait, à certains entraînements que faisait l'homme qui valait 3 milliards.
Ouais.
Donc on a vraiment le côté machine qui est mis en avant de Drago, qui n'est plus finalement un être humain, mais un super être humain. C'est incroyable.
Il y a deux choses. Il y a un petit film en 1984 qui est sorti d'un réalisateur méconnu, un certain James Cameron.
Je connais pas.
Voilà, qui met en scène...
Il a fait Piranha 2, je crois.
Voilà.
Ah oui, c'est lui.
Et voilà, en regardant Rocky IV... Merci, voilà, pour le thème. Donc voilà, en regardant Rocky IV, on peut pas faire l'économie de dire que Stallone a vu Terminator et a essayé de coller à cette mythologie futuriste.
Et même l'esthétisation, honnêtement, moi je trouve ça, alors ça veut paraître contradictoire, mais l'être humain est fait de contradictions, c'est magnifique esthétiquement, je trouve ce truc sur fond blanc avec toute cette poussière, enfin la lumière est maîtrisée, les injections qui sont faites dans ses bras, les moments où il fait le cardio avec cette lumière comme ça tamisée.
Les lignes rouges qui sont répétés constamment.
Ouais, c'est à la fois anxiogène et esthétiquement, c'est sublime.
Anxiogène,
pardon.
Surtout vis-à-vis de la musique, puisqu'il y a un morceau, presque le leitmotiv de Drago, qui ressemble à du Carpenter. C'est des notes de synthé très technologiques.
Bah ouais, et même par rapport à Terminator, dont tu faisais le parallèle sans le nommer, on voit clairement une prédomination du fond noir et de cette chose qui sort de l'obscurité. C'est vraiment
et d'ailleurs, flagrant. Dans le discours des officiels, il n'est pas montré comme un humain, il est montré comme un produit de la science soviétique.
Ça rejoint Red Son, dont on parlait tout à l'heure.
Et ce qui est très intéressant, c'est que quand à un moment dans le match Rocky Balboa va finir par asséner enfin un vrai coup à Ivan Drago, il revient s'asseoir et puis il y a son entraîneur qui fait, tu vois, c'est pas une machine, c'est un être humain. Et parallèlement à ça, l'autre s'assoit et dit, c'est pas possible, c'est pas un être humain, c'est une machine, il encaisse des coups. Et il y a une sorte d'inversion qui se fait. Et alors je vais pas, parce qu'on a dit qu'on en reparlerait un jour, mais pour moi vraiment à ce moment là il y a un autre message caché qui est pas en lien avec la Russie du tout, mais c'est Stallone qui dit quelque part à Schwarzenegger, t'as vu, en fait, je peux te mettre un coup qui peut te casser. Et là, on revient au parallèle de Terminator. Pour moi, effectivement, la manière dont Dolph Lundgren interprète Draco a vraiment quelque chose du Terminator.
Alors là, on fait un peu de...
Du crossover.
Non, oui, du crossover, mais du crossover anticipé, puisque je vais parler d'Universal Soldier.
Ouais.
Universal Soldier, c'est des cadavres de soldats du Vietnam qui ont été truffés de machines et congelés et qui réagissent comme des robots. Et finalement, c'est quand ils se prennent un coup dans la gueule qu'ils commencent petit à petit à se recomporter comme des êtres humains. Et finalement, c'est ce qui arrive à Drago, c'est qu'à force de se prendre des coups, ils commencent à avoir une individualité et à vouloir gagner le combat non plus pour
le peuple,
la Russie,
mais pour lui.
Pour lui, ouais. Pour sa fierté. Et
ça réveille, quoi.
Voilà, c'est un truc qu'on va retrouver dans Creed 2, où finalement, est-ce que véritablement Drago est devenu humain ?
Ah, il est dans Creed 2 ?
Oui, il est dans Creed 2. Parce que voilà, en gros, pour faire une petite parenthèse, c'est que Drago va revenir avec son fils. Et son fils qu'il a dressé comme une machine pour vaincre Rocky ou son
son héritier spirituel. Ouais.
Qui est quand même le fils du mec qui l'a tué.
Voilà.
Enfin voilà, c'est...
Et toute la... Toute la logique,
non, si tu nous regardes.
Et toute la logique et l'enjeu du film, c'est de savoir est-ce que Drago va traiter son fils comme un fils et non plus comme un...
Ou comment lui a été traité, tout simplement. De toute façon, est-ce qu'il va reproduire en fait ce qu'il a toujours connu.
Et il y avait aussi un autre élément que je trouve très important et qui n'est pas assez cité dans la caractérisation de Drago. C'est, je crois, l'héritage des James Bond. Je suis pas sûr que des gens... Voilà, soyons fous.
Soyons fous.
Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu ça sous cet angle, ou du moins je connais pas ces écrits-là, mais je pense que toute la logique de Boogeyman vient en partie des porte-flingues James Bondiens. Mm. En fait, très rapidement, dans les James Bond, les films se structurent autour d'un grand méchant, donc qui est toujours un intellectuel, sophistiqué, et il est toujours secondé d'une sorte de sous-fifre indestructible. Alors, vous avez en tête Jaws, qui
ouais,
est dans...
Requin, si tu nous entends.
Voilà. Donc l'espion qui m'aimait, je crois, Mayday, donc Grey Jones dans Dangereusement Vôtre. Et finalement, ce personnage qui est indestructible, qui peut tordre du métal, qui peut se prendre des coups, qui peut même se prendre des balles, et qui continue à marcher, finalement, ça a contribué à créer des gens comme Michael Myers, ça a créé les Boogeyman comme Jason Voorhees.
Ça a créé sa version à Nintendo 64,
voilà.
Improbable.
Et le côté bondien, le côté arien, tu le retrouves dans Drago. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que j'ai regardé la filmo de Lundgren, et Lundgren a joué un tout petit rôle dans Dangereusement Vôtre.
Mais oui, c'est vrai. La révélation.
Et c'est son premier rôle.
Ressortons les dossiers.
Mais oui. Et donc voilà, en gros, quand Stallone fait ça, il met en forme un imaginaire cinématographique qui lui préexiste pour créer l'espèce de concentré parfait du méchant absolu. Et évidemment, c'est un méchant qui marche très bien et qui marche même presque beaucoup mieux que Clubber Lang. Pour moi, Rocky 4, c'est un peu Rocky 3 revu, mais à l'économie,
sur un côté minimaliste.
Ouais, très très. Alors, ouais. Le film ne fonctionne pas sur beaucoup de points, mais sa force est son minimalisme. C'est-à-dire qu'il taille l'intrigue jusqu'à la serpe, même jusqu'à faire passer Apollo Creed pour un imbécile.
Ah, j'irai pas jusqu'à là.
Mais on digresse.
Il y a quand même deux scènes où ils parlent tous les deux, je trouve qu'ils sont super intéressantes, notamment où tu sens d'ailleurs que Stallone incarne un Rocky Balboa qui n'est pas cultivé. Il y a un moment donné, t'as Apollo qui dit « Moi, j'ai bouffé du lion, je vais le défoncer. » Et l'autre qui s'embête et qui dit « Bah, moi, j'ai déjà été au zoo, mais du coup, j'ai jamais mangé de lion. » Enfin, et l'autre, il rigole, il dit « C'est une expression. » Et suite à ça, il y a une conversation où il finit par lui expliquer « Tu sais, c'est eux contre nous. Et quand ce sera terminé, tu comprendras. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apollo, c'est pas que quand ce sera terminé, lui, il sera plus là. Et effectivement, que Rocky comprend. Mais c'est pas juste c'est eux contre nous. En fait, il le dit à un moment donné, c'est que c'est moi contre moi, je suis en train de vieillir. Et d'ailleurs, Rocky lui dit, t'es sûr que c'est pas contre toi que t'es en train de te battre En fait, c'est à lui qu'il a des choses à se poser. Je pense pas que ce soit un imbécile, Creed.
Non,
c'est un mec qui est en perte de vitesse et qui a pas envie.
C'est pas du tout un imbécile, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que le film aurait peut-être mérité à passer plus de temps et à donner véritablement plus de relief à son envie de finalement pas disparaître en tant que sportif.
Et pourtant, c'est dit, hein. Il lui dit, quoi qu'il se passe, tu ne jettes pas l'éponge. Et il lui répète, il dit,
oui,
quoi qu'il se passe.
Mais je veux dire, émotionnellement. C'est-à-dire que le film va trop vite pour ça.
Et c'est ce qui donne justement l'impression qu'il est un imbécile.
Moi, il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé dans le film, c'est les séquences clipesques. C'est-à-dire que quand Stallone.
Trois
prend,
reprises.
Voilà, trois reprises.
Tu l'es bouffé dans la tronche.
Parce que justement, le film a été conçu comme un clip géant et il est très adapté à ce qu'était le cinéma hollywoodien de l'époque. Mais voilà, je me dis, ok, on va peut-être passer presque 14 minutes de clip qui n'ont pas été passés. passer en exposition, en intime, et ça je l'ai pas eu, et ça je trouve ça très dommage, et c'est une grosse déception du film.
En fait, notamment sur le dernier clip où t'as vraiment Stallone qui est en train Rocky qui est en train de réfléchir à tout ça, qui met en parallèle la vie de Creed et la sienne, puisque tu vois des images de Rocky 1, de Rocky 2, de Rocky 3, tu les vois courir ensemble, tu les vois s'entraîner ensemble,
se sauter dans les bras.
De toute façon, il y a des images de bromance tout le long du film, de toute façon entre ces deux là
c'est les images de bromance des années 90 avec celles de Commando Stallone qui...
Mais il y a plus de sensibilité, il y a même plus d'érotico-gay en fait
c'est plus lyrique
dans les images de Rocky. Ouais, peut-être, mais c'est pas ce que je dis n'est pas du tout péjoratif.
Tu dis ça parce que vraiment... t'aimes pas la peinture camouflage et que tu préfères les vraies couleurs bariolées.
Non, tu peux pas venir ça, pas à moi. Non. Je te rappelle que je fais partie de nous trois, celui qui a fait l'armée.
S'il te plaît, respecte-toi.
Non, mais très sérieusement, en fait, le côté qui emprunte à l'imagerie gay des années 80, qui pour moi en fait est très importante, parce que c'est l'acceptation quelque part par Stallone que on a le droit d'avoir des sentiments. Là, on parle pas de sentiments sexuels, mais on a le droit d'avoir des sentiments pour un autre homme. Il y a vraiment quelque chose. On parlait de bromance, mais c'est vraiment ça quoi qui est mis en lumière dans ces films.
Je pense que vraiment l'imagerie crypto-gay est indépendante de Stallone. Je pense que lui a voulu mettre en place ce qui était la virilité dans sa substance.
Ce qu'on appellerait shonen aujourd'hui sur les mangas.
Je donne trop, c'est possible.
Simplement pour vous amener à la conclusion, messieurs, moi j'aurais une petite remarque. Un truc qui synthétise bien tout ça avec Dolph Lundgren, en l'occurrence, qu'on a pas mal parlé de Stallone. Il y a un truc déjà que vous n'avez pas précisé sur l'entraînement de Stallone, c'est qu'il est beaucoup plus rustique.
Il
est voulu rustique.
Bah, d'ailleurs, les deux entraînements sont mis en parallèle.
C'est ça, complètement, dans le montage.
Quand tu le vois, il y en a un qui est en train de pousser sur du métal, l'autre est en train de pousser une charrue.
Il y a un contraste qui est flagrant. Et le deuxième, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, que Dolph Lundgren a un rôle dans le clip de Believer de Imagine Dragons.
Ah bon,
je sais pas si vous avez vu ce clip. Et c'est très intéressant parce que donc c'est une séquence qu'on a évidemment pas dans le morceau, seulement dans le clip, où il y a un moment où il y a une prise de respiration donc du chanteur d'Imagine Dragons dont le nom m'échappe, et il a Dolph Lundgren en face de lui et il lui dit I can't go on, I can't go further. Il fait un truc genre you have to, et il lui remet une droite, sachant que c'est très intéressant par rapport à ce que disait Fozzy tout à l'heure, les paroles du truc, c'est you make me a believer, pain, par la douleur, et c'est la douleur qui est effectivement l'élément qui fait prendre conscience individuelle, on pourrait extrapoler en disant conscience politique, c'est-à-dire une façon
justement,
de... Alors, ah, tu es venu, excuse-moi, je t'ai mangé.
On n'arrête pas de dire à Stallone le contraire, parce qu'on n'arrête pas de lui répéter no pain, no gain.
Justement, en termes d'ouverture politique et de propagande, là où Stallone est intéressant, parce que Stallone est loin d'être un idiot, c'est qu'on comprend très bien que ce soit sur le terrain américain ou sur le terrain russe, les deux spectacles qui ont lieu sont des objets de propagande.
L'arrivée d'Apollo Creed en mode oncle Sam,
oui, avec mais alors, James Brown aux commandes.
Justement, je me suis regardé Rocky 1 et le rapport de Creed avec l'imagerie américaine, il est très ambivalent. C'est que quand tu regardes comment Apollo arrive dans Rocky 1, c'est un peu un camoulox américain. Ça, il arrive, il est Christophe Colomb déguisé en George Washington sur un bateau, il lance des tracts, il arrive sur le ring, il se dessape et il se déguise en oncle Sam.
Vous ne pouvez pas, il y a Russ Meyer qui fait du kayak.
C'est ça.
Donc Creed est en même temps conscient de ce qu'il est en train de porter politiquement, mais ce qui l'intéresse et ce qui le façonne, c'est le show.
C'est un showman. Hein.
Et c'est pour ça qu'ils ont embauché James Brown, parce que le showman par excellence, c'est James Brown.
Mais il y a un moment donné où au début, il est en train vraiment verbalement d'agresser les Russes, en fait il essaye vraiment de les énerver, ça fonctionne, et quand il sort t'as vraiment l'impression qu'il était énervé aussi, alors qu'il demande à Balboa, il fait alors c'est bon j'étais bien, j'en ai pas trop fait, si t'en as trop fait, il fait ah super parfait quoi.
Bah, disons que voilà, pour conclure, il y a le côté un peu ambivalent de Stallone de jouer sur les deux registres, de dire je fais un film politique riganien, mais en fin de compte sans y toucher, je dis finalement c'est pas la politique qui compte, c'est le sport et c'est la boxe, et c'est ce qui se passe entre ces deux boxeurs qui sont sur le ring, et que toute la propagande soviétique ou tout le festival James Brown, c'est du surplus.
J'ai cru que t'allais dire Staline.
Sylvester Staline.
C'est juste pour t'amener là-dessus. Et là, moi, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, la phrase de fin de Rocky va là-dedans. Il dit, si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut changer.
C'est un vrai tuto.
C'est vraiment, en fait, il y a un moment donné où il sort des carcans politiques en se disant, je casse tout. Alors qu'en fait, non, il est dans les carcans du sport.
Ouais.
C'est juste, en fait, qu'effectivement, ce monde-là pourrait donner cette impression d'être apolitique, ce qui est totalement faux, là encore, parce qu'en fait, finalement, justement, c'est toutes ces limites qui viennent se rencontrer les unes les autres. Et puis, il y a un moment donné, en fait, où non seulement tu es limité par ce que tu as vécu culturellement et par la politique de ton pays, mais aussi par le sport que tu as choisi. Et au lieu d'être libérateur, finalement, quelque part, il peut être enfermant.
C'est pas ma guerre, c'est pas mon sport.
C'est pas mon sport.
On aura fait un petit tour d'horizon, mais je pense que si vous tendez l'oreille un minimum pendant toute l'émission, vous vous doutez qu'on n'en a pas fini avec Stallone et bien d'autres dans La fin absolue du monde. Alors on ne va pas diffuser Pushing to the Limit, on ne va pas diffuser Montage de Team America.
On aurait pu aussi.
Mais on va rester dans le rouge, dans le soviet, une certaine forme en tout cas, avec un choix de Seb qui revêt sa casquette de docteur TMDJC avec le stage de Zangief. Alors ça va me faire plaisir parce que la compositrice, et je te laisse la parole pour en parler un petit peu après, et du morceau qui est Manami Matsu Mae, à qui on doit les musiques de Rockman premier du nom, entre autres choses, et Shovel Knight plus près de nous, mon Dieu.
Alors je rectifie, en fait, c'est pas elle qui a composé le morceau.
Oui, elle a repris, voilà, c'est une version
de Yoko Shimomura, mais c'est sur un album qui s'appelle Street Fighter Tribune.
Ah, c'est sur celui-là ?
Oui, tout à fait, il y a plein de.
C'est le tribute, entre là, qui a 10 ou 15 morceaux.
Tout à fait, de Capcom, mais pas que, hein, qui vont venir rejouer. D'ailleurs, Yoko Shimomura reprend
ce
morceau.
Exactement, il est extraordinaire.
Tout à fait, qui est génial. Et ben nous, on va vous proposer d'écouter celui de Zangief. Moi, j'aime vraiment bien cette reprise de Manami parce que d'abord, il y a toujours le côté lourd du catcheur, mais il a un côté très aérien. Et pour moi, en fait, Zangief est un personnage paradoxalement qui peut être très aérien parce que, bon, d'abord, il te fait voler du mieux qu'il peut, quelles que soient les versions.
Red Cyclone.
Tout à fait. C'est le cyclone rouge. Et puis, parallèlement à ça, c'est un personnage qui, des fois, dans certaines conditions, nécessite aussi de se retrouver en l'air pour pouvoir faire certaines attaques. Donc, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers de Street Fighter. Alors, je tiens à dire quand même que tout le temps j'ai envie de parler de Street Fighter, mais que je ne suis pas à l'origine de cette idée qui m'a été soufflée. J'ai dit bon, si vous me laissez la possibilité de le faire, je la prends. On écoute Zangief.
Très bien, avec grand plaisir. Et puis justement, tu parlais de bromance et d'homo-érotisme, Zangief représente beaucoup la culture bear, ça tombe plutôt pas mal. Donc Zangief Stage par Manami Matsumae.
We'll be right back.
troisième et dernière partie de ce premier numéro de la fin absolue du monde, parce que quand même de fin il doit être question absolue, pas tant, hein, parce qu'on vous renvoie à l'introduction que Foddy vous a donnée. Et on va terminer avec l'ami Sébastien, qui ne va pas nous parler à mon grand dam, mais vous savez que sur Death Podcast, il y a le Catchacast, hein, vous savez, je tapais tout à l'heure le thème de Terminator, qui est l'envolée du grand Kenny Omega, meilleur catcheur du monde, mais ça, si vous avez envie de vous intéresser à la chose catchesque et de politique, on en parle dans le Catchacast, et au-delà de cette pub sauvage interne, Sébastien, tu n'as pas parlé de Zangief, mais de...
Non, je vais parler de double détente, moi, et...
T'es pas un peu trop relax, déjà ?
Je trouvais déjà qu'on se un petit peu lâché, qui oui. s'appelle Reddit dans sa version originale.
Mais alors, double détente, le terme est très bien choisi, puisque ça fait suite
oui, politique,
à la politique de détente, et double détente, c'est que ce soit du côté américain et du côté russe, on va se détendre, quoi.
Ben ouais, on va essayer de faire ça.
Alors, je suppose que dans le choix français d'origine, à mon avis, c'était plus le côté, effectivement, la détente liée aux armes à feu, mais effectivement, je pense que de manière maladroite, le titre est particulièrement bien choisi. Alors, c'est marrant, je commence déjà par une parenthèse, parce que j'aime bien ça.
Allez, enchanté.
On a discuté en off avant de démarrer l'émission, et j'ai revu, évidemment, toutes les œuvres dont on parle là, parce que moi, j'aime bien avoir les œuvres fraîchement dans la tête pour pouvoir en parler. Et j'avais, pour moi, oublié à quel point Rocky IV était un bon film, et j'avais oublié, pour moi, à quel point, en fait, Double Détente n'était pas un bon film. Et on en parle
d'où la raison
off,
de choisir.
Du coup, avec Cody qui disait « Ah ben bah, pour moi, c'est l'inverse. » Du coup, j'ai trouvé ça très drôle.
Ça va être saignant.
Et ouais, c'est cool parce qu'en plus, c'est quand même nous qui avons choisi les films.
Voilà, donc vous avez repéré la haute teneur masochiste des chroniqueurs.
Je vais faire ma parenthèse pour vous dire que le réalisateur de ce film, c'est Walter Hill, à qui on doit plein d'autres trucs. Mais de toute façon, on va pas partir sur le name dropping. Mais tu voulais...
Oui, juste, je voulais citer Sans Retour en 1981 et surtout The Warrior en 1979.
Ouais, bon, j'allais pas le faire. Hein. Vous notez que c'est pas moi qui l'ai fait.
Oui, mais bon, il y a un quota cinéphile à assumer.
C'est le Pierre Tchernia.
Voilà.
Mais t'as raison.
Et c'est lui aussi qui a produit avec David Giller la saga des Aliens.
Bah, alors, en parlant d'Aliens directement, la bande originale est de James Horner. Alors, pas pour Alien, du coup, en lien direct, mais parce qu'il a fait plein de trucs aussi, notamment avec des extraterrestres. Un jour, je pense qu'on fera un truc là sur
la BO de Commando aussi, Horner. Bah,
et voilà. Titanic. Et là, je ne suis pas ironique. Hein. Je précise pour Titanic.
Il y a rien
qui
est
merveilleux.
D'accord, c'est vraiment lui. D'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai beaucoup d'affection.
Céline Dion, souvenez-vous.
Non, celle-là, oui, c'est celle que je voulais un peu oublier.
Voilà, mais j'ai beaucoup d'affection pour la BO de Titanic. Moi.
Mais pas pour Céline Dion.
Mais pas, alors, j'ai rien contre Céline Dion, mais c'est vrai que bon, on va y arriver. Alors, c'est quoi Double Détente ? Double Détente, c'est un film un peu space qui date de 88, qui est à classer dans deux cases différentes. C'est à la fois un policier, comme beaucoup de policiers de l'époque. C'est alors d'ailleurs, j'ai deux cases, j'irais même trois cases, parce que c'est clairement un film d'action, mais c'est surtout un body movie, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque. C'était une époque où, je pense notamment à des films comme 48 heures, où on va se retrouver en fait à essayer de prendre...
De Walter Hill.
Voilà. Où on va essayer de prendre deux têtes d'affiche et d'en faire un film où il va y vraiment avoir un clash entre les deux. Et je trouve que c'est toujours un exercice difficile parce que, surtout à l'époque, quand tu as deux têtes d'affiche qui prennent toute l'affiche d'habitude, arriver à la partager avec une autre tête d'affiche, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ça se fait très naturellement. Il y a beaucoup de crossovers. Si on prend le MCU, par exemple, c'est l'archétype des films où ils vont réussir à mélanger 15-20 personnages.
Fast and Furious.
Fast and Furious, exactement.
Ah,
le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Il y a un moment donné où on dit, tu vas voir en fait plein de têtes d'affiches. Alors, Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu compliqué parce que des fois, il y a des têtes d'affiches qui sont devenues des têtes d'affiches parce qu'il y a eu le Seigneur des Anneaux. Mais bon, après.
Mais on a perdu cette tradition-là, ça fait un peu chauvin en France, je trouve. Ça va peut-être en faire sourire quelqu'un, mais ce que tu dis, un 48 heures et compagnie, même si c'est pas le même rythme et le même délire, ça me fait penser à la chèvre, à toutes ces oppositions. Comme
oui,
ça.
Enfin, personnellement, je tiens pas à revoir un autre ange gardien.
Oui, non, je sais pas.
Et pourtant, ne parlons pas
des titres qui fâchent.
Et pourtant.
Voilà.
Et
pourtant.
Ah oui, alors pourquoi ? Oui, parce que je dis que c'est un body movie, mais qui sont les deux têtes d'affiche du body movie ?
S'il te plaît.
On a James Belushi qui à l'époque, alors peut-être que c'est un nom qui vous dit plus grand chose aujourd'hui.
Jim.
Non, c'est James, je crois. C'est j'ai noté James, mais peut-être.
Belushi.
Il me semble, mais bon, peut-être je dis une grosse bêtise. Belushi, en tout cas, qui était très connu à l'époque, notamment pour des films de comédie ou de flics. Il a quand même incarné pas mal de flics au cinéma.
Je suis un flic.
Et puis de l'autre côté, on a.
Je suis un flic.
Exactement. Et là encore un body movie où on va retrouver de l'autre côté, évidemment, on a Arnold Schwarzenegger. Bon, là là, il y a rien à dire là.
Chêne
autrichien.
Voilà, si ce n'est que là, une fois de plus, il incarne une sorte de Terminator et qui justifie son accent autrichien en étant russe, ce qui était quand même la meilleure justification du monde.
Ever.
Non mais là franchement, génie, j'ai envie de dire. Pourquoi il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce film et après je partirai sur les trucs que je trouve très sympas.
Enfin, l'accent déjà.
Je trouve ce film très vide dans le sens où on arrive et on dit bon, alors quels sont un petit peu les stéréotypes qu'on connaît, quelle est la culture qu'on connaît des Russes et comment on la montre à notre peuple américain qui est quand même pas super intelligent, je veux dire notre public américain, et c'est un petit, pour moi c'est un petit peu l'angle je trouve qui a été pris au niveau et scénaristique et réalisation, et on se retrouve avec un film d'action où petit 1 on va pouvoir enchaîner tous les petits clichés qu'on peut, la première scène qui se passe dans un sauna ou...
Oui, alors les scènes de sauna dans les films russes vous en trouvez à la pelletée, alors il y a dans Les Promesses de l'Ombre, il y a aussi dans Risque Maximum avec notre Jean-Claude International,
voilà,
mais il y a un truc très déstabilisant dans Simon Walter Hill, c'est qu'il peut être très réaliste, très cru dans ce qu'il met en scène et à la fois complètement cartoon BD.
C'est vrai, tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est exactement ça, Fozzy. Je pense à une scène en particulier qui se passe au début du film où tu as le partenaire de Schwarzenegger qui va mourir et la manière dont il meurt, tu as l'impression que c'est ou un sketch ou effectivement un dessin animé. Tu as le flingue qui sort de la manche, il prend deux balles, ça ne se voit absolument pas, il tombe, il bouge plus et c'est plein de sang. Le sang, tu l'as pas vu sortir. Enfin, il y a un truc, c'est au niveau de la réalisation, c'est ultra maladroit. Et d'ailleurs, c'est très amusant puisque le curseur va être poussé très loin parce qu'il y a un des personnages qui à un moment donné va se travestir pour tuer quelqu'un et ça se voit à certains moments que c'est une réelle femme qui joue vraiment le rôle et que c'est quand il meurt en fait, on voit que c'est un homme déguisé. Enfin, la manière dont c'est mis en scène de manière maladroite, je trouve. On va essayer de jouer sur des clichés. Alors bon, voilà, je remets les choses dans le contexte. Hein, on est en 88. L'humour oppressif, il est à son paroxysme, mais c'est pas très grave parce que ça fait partie des choses qui sont naturelles à l'époque.
Sur mon barème, il est over 9000.
C'est ça, c'est exactement ça. Le Vegeta vient de t'envoyer un message pour dire qu'il était d'accord.
C'est ça, exactement.
Et donc, on se retrouve en fait avec un Belushi qui il est antipathique ou possible.
C'est un filou.
Un filou qui incarne, entre guillemets, les valeurs pourries de l'Amérique et qui est constamment rappelé à l'ordre par un Finchburn qui joue, enfin, il est tout jeune à cette époque-là, qui incarne un flic qui est un petit peu celui qui va dire bah, c'est pas bien de faire ça ou qui va éventuellement dénoncer. Mais en fait, finalement, c'est un mec qui fait son taf et qui est vu comme un connard parce qu'il fait son taf.
C'est surtout qu'il est caractérisé comme un pasteur ou un évangéliste. Et en fin de compte, si Belushi et Schwarzenegger avaient fait tout ce que leur demande Finchburn, bah en fait, leur enquête aurait probablement jamais abouti.
Ouais, alors ça c'est encore à discuter parce qu'on ne sait pas pour de vrai ce qui se serait passé si tout le monde avait respecté les règles. Ça, on ne peut pas savoir. Mais je vois où tu veux en venir. Mais le fait est que non seulement que ce soit Schwarzenegger qui est censé incarner la constance russe, et puis en fait, tu vas voir que finalement, bon, la constance russe, elle est toute relative. Et donc, le côté je m'en foutiste américain qui est donc incarné par Belushi. Et en fait, à la fin...
C'est Monica, le prénom, on n'a pas trouvé ça. Je
l'ai fait à FQPH quand tu regardais le film. Oh, t'as vu, il y a Monica qui joue. On se retrouve en fait avec deux types qui vont péter la moitié de la ville avec un bus. Enfin, on est vraiment dans l'explosion à outrance. En fait, les deux devraient être en tôle à la fin du film.
Oui, mais comme dans tous les buddy movies des années 80.
Voilà.
Ce qui est amusant, c'est que donc le russe arrive et il passe en force. La loi, il connaît pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre la tête des suspects et les enfoncer dans le mur. Et à un moment, c'est ça qui est amusant et c'est ce qui nourrit la relation, c'est qu'il s'aperçoit que ça ne marche plus. Et à ce moment-là, Belushi devient utile parce qu'il peut tout régler à coups de bakchiche et d'entourloupe. Et du coup, la dynamique du duo fonctionne parce que Schwarzenegger a besoin de Belushi pour mener jusqu'au bout son enquête.
Alors moi, c'est un des trucs qui m'a posé problème dans le film, c'est que justement, je trouve que le duo ne fonctionne quasiment jamais. T'as vraiment deux personnages, en fait, côte à côte. Un, donc, l'Américain qui, pour de vrai, est plus... En fait, il en a plus rien à foutre. On a presque l'impression qu'il se fout de son boulot, même. C'est un mec qui est complètement...
Désabusé.
Qui essaye de rire de tout et qui voudrait que les autres rient avec lui, mais en fait, il n'a pas de copain, en fait, véritablement. Et le Russe, qui est dans son truc, à sa mission, qui est une fois de plus une sorte de Terminator et qui va jusqu'au bout de son truc.
Il y a tout le discours autour de la décadence américaine et on l'avait esquissé dans... du capitalisme. Il y a la scène où Schwarzenegger allume la télé dans un hôtel miteux et la première chose sur laquelle il tombe, c'est un porno. Et on le voit avec la gueule des fers en train de dire « capitalisme ». Mais voilà, au-delà de cette critique, il y a à la fois une détestation du Russe, mais aussi une sorte de fascination passion, pour sa
vertu.
Sa vertu, oui, mais aussi sa discipline. Et d'une certaine façon, que ce soit Stallone ou Walter Hill, le Russe est là pour rappeler aux Américains à quel point ils sont tombés bas. Parce que finalement, les Russes, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils incarnent, ils sont peut-être plus vertueux, ils sont peut-être plus courageux, ils sont peut-être plus disciplinés que nous.
Mais parallèlement à ça, tu vas quand même avoir une conversation entre le méchant russe et le gentil russe, où tu te rends compte que tous les russes ne sont pas vertueux, et le méchant russe qui a ce commentaire qui est peut-être un peu là aussi tounesque, mais qui est vrai, tu n'existerais pas sans moi. Tu n'as aucune raison d'exister si je n'existe pas.
Et justement, d'une certaine façon, Rostavili, qui est incarné par Ed O'Ross, qui est un Américain, c'est un criminel sans foi ni loi, on ne peut pas l'arrêter. Il faut vraiment lui envoyer un bus dans la gueule pour arrêter ce type. Il est indestructible, pas parce qu'il est fort, parce qu'il peut tout faire. Il peut tabasser des gens, il peut les tuer, il peut les écorcher. En gros, ce film, il est un peu le précurseur d'une nouvelle façon de présenter le russe sous l'angle de la criminalité.
Indestructible.
Oui, ça me dit quelque chose. Il peut tout faire comme Anne Hidalgo avec les bus à Paris. Et alors, cette double détente au regard soviétique, qu'est-ce que... Au-delà de te faire souffrir de...
Alors, du côté, une fois de plus, du côté soviétique. Et d'ailleurs, c'est à nouveau le même problème. C'est dans le sens où c'est une fois de plus un regard américain sur ce qu'on croit être l'Union soviétique. D'ailleurs, très souvent, on n'arrête pas de les appeler des Russes ou des Ruskovs dans le film. Et à
Ruskies.
Chaque fois, à chaque fois, eux précisent et disent non, je suis soviétique. Tu sens bien que même là, timidement, il y a un constat qu'en fait, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et beaucoup de Russes ne sont pas incarnés par des Russes dans le film. Par contre, il y a un côté très positif, c'est que quand même, et c'est rare dans les films américains de cette époque, il y a toute une partie du film qui est en russe. Schwarzenegger parle russe
rouge
à un moment donné. Pas que d'ailleurs, hein, quand ils sont dans le sauna, quand ils sont dans le premier, tout ce qui se passe en Russie. Et il va se passer un truc très particulier sur la fin, c'est qu'à la toute fin, il y a un moment donné où je suis en train de chercher son nom, le méchant russe parle avec Schwarzenegger.
Rostavili.
Merci, Rostavili. Et pourquoi cette partie-là, en fait, il va se mettre à lui parler en américain, comme si en fait le fait qu'ils étaient aux États-Unis, ça y est, il avait passé quelque chose.
La méthode assimile.
Voilà.
Le fait est que la Russie était complètement impénétrable au tournage américain et qu'il faut véritablement attendre Reddit pour que des équipes américaines soient autorisées à tourner en Russie, parce que en fin de compte, Reddit s'inscrit dans une logique de détente, parce que Gorbatchev a été nommé en 85, et en 85 il y a une reprise des échanges entre la Russie et l'Amérique riganienne.
Gorbatchev qu'on voit un petit peu dans Rocky 4 d'ailleurs.
Oui. Après, mais c'était 85, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en 87 c'était un gentil.
T'as vu.
Mais voilà, au-delà de ça, même Rocky 4, il n'y a pas un seul plan qui a été tourné en Russie. Ça a été tourné à Jackson Hole, dans le Wyoming, je crois, pour tout ce qui est la cahute d'entraînement.
De Stallone, ouais.
Et je crois que la salle où s'affrontent Rocky et Drago en Russie a été en fait tournée au Canada. Donc voilà, c'est juste concrètement, tourner à l'étranger, ça aurait coûté une fortune à la production. Et de toute façon, Stallone n'aurait jamais eu l'accord des Russes.
Parce qu'ils ont écouté du cabal, c'est pour ça. Si vous l'avez, vous pouvez nous envoyer un courrier.
Un petit tweet.
Un courrier, j'ai dit pas un mail. Donc, est-ce que vous pensez, entre guillemets, on n'en a jamais fait le tour et de toute façon ça figure plein d'autres choses, ou peut-être un dernier mot sur cette double détente Sébastien, on te laisse le mot de la fin.
Un dernier mot, oui. Je suis un peu dur avec ce film, et c'est très facile d'être dur avec ce film parce qu'on est en 2019, on a découvert plein de choses depuis. Évidemment, c'est un film qu'il faut revoir dans son contexte historique. C'est évidemment super important. Et le film, voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses dedans, loin de là.
Non.
Le fait est que ce soit Belushi ou Schwarzenegger, ils ont joué dans d'autres films que j'ai vraiment plus apprécié, mais que je suis très content que dans cette première émission, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plein de fois.
Ouais.
On ait pu déjà mettre face à face Stallone et Schwarzenegger dans cette même émission. Je pense qu'il y aura plein de choses à dire de ce côté-là, et vivement la suite.
Tout à fait.
Voilà, donc en tant que cinéphile, je vais...
en remettre une dernière couche.
Voilà, une dernière couche, désolé.
On t'appelle du luxe Valentine.
Non, c'est... L'inscription du russe dans le cinéma américain, on l'a un peu survolé. J'aimerais donner quelques dates et quelques films en vrac. Tout d'abord, Firefox, l'arme absolue de Clint Eastwood. Alors là, qui est sous l'angle du film d'espionnage, qui n'a pas été tourné encore une fois en Russie, qui a été tourné à Vienne, je crois. Donc c'est Clint Eastwood qui est dépêché en Russie pour aller trouver un super avion, à défaut d'un supercoptère. Et vraiment, la Russie s'est montrée sous l'angle du film d'horreur. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se regarder, tout le monde est en train de s'espionner. Les officiels russes sont un peu partout au coin de la rue. Donc, il y a un climat très, très oppressant. Je voulais aussi parler de Gorky Park de Michael Apted, tourné en 1983, et qui lui aussi se passe en Russie, avec des, pas des Russes, mais des acteurs qui jouent des Russes, et une histoire de...
Il y a des Russes, je crois, dans les acteurs, non ? Il y avait pas de... Ou des gens d'origine russe, il me semble. Hein.
Enfin, toujours est-il que le principe du film est de regarder cette fois la Russie de l'intérieur, avec une histoire centrée autour d'un gradé russe, qui est incarné, je crois, par William Hurt, et qui va enquêter sur une série de meurtres liés à un trafic de zibline. Alors, la zibline, c'est une sorte de fourrure, et... Au cours de son enquête, il va finalement découvrir que ses supérieurs sont à la tête de ce marché noir. Alors évidemment, c'est un film très très américain, mais c'est plutôt plaisant à suivre et finalement assez sobre.
J'ai bien écrit.
Enfin, c'est un peu des films qui sont sur l'envers, qui sont un peu moins caricaturaux, peut-être moins intéressants, parce qu'un Rocky IV, c'est toujours...
Moins grand spectacle.
Voilà, en fait, moins grand spectacle.
Voilà. Ça demande plus d'efforts de rentrer dedans, peut-être. D'ailleurs, par rapport à Firefox, je conseille fortement l'original plutôt que son remake Chrome, hein, qui est vraiment, vraiment moins bien, mais ça, c'est très, très personnel. et je rajouterais à tout ça que la troisième saison de Stranger Things est sortie il y a très peu sur Netflix, si jamais vous avez l'occasion, et que le grand ennemi de cette saison, qui ne dure que 8 épisodes, c'est les Russes. Et franchement, regardez-la, elle est très très sympa. Une fois de plus, je trouve que les codes des années 80 ont été très bien utilisés. Alors,
c'est ce qui m'embête.
On en avait déjà parlé, ouais, mais moi je continue à être brossé dans le sens du poil. J'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder ça. C'est toujours aussi bien joué du côté des acteurs, ils sont incroyables. Franchement,
j'en doute pas une seconde, mais c'est ce qui m'avait fait arrêter Heroes à l'époque. J'en avais marre de regarder un truc pour son casting et une construction marketing. Et...
Mais
voilà,
je trouve pas qu'il y ait le problème de Heroes que j'ai arrêté de regarder aussi dans Stranger Things et voilà, et puis bah, les ennemis russes, je n'en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, sont très top, sont très très top.
Qu'est-ce que je voulais dire, non, j'ai pas de reco particulière, mais j'ai envie de finir cette émission sur le signe de la double détente, c'est le cas de le dire, parce que c'est James et Jim. C'était le surnom, alors son nom civil c'était James Pelucci.
Ah, bah voilà.
Et son surnom
et
c'était
son
Jim.
Frère.
Donc ils utilisaient, non, c'est John.
Ouais, John, okay.
Voilà, donc c'est la famille des Jay, mais en tout cas les deux étaient utilisés,
oh,
parce
bah
que son surnom était Jim.
C'est bon,
les deux,
on avait
c'est
tort
la...
et raison
c'est,
tous les deux.
Voilà, c'est voilà, la double détente.
C'est ça la double détente, la vraie. Et bah écoutez, la fin absolue du monde se profile, mais en tout cas c'est pas une fin tout court, parce qu'on se retrouvera pour une prochaine émission. On va être un instant en brossage de poils comme sur Stranger Things,
ouais,
dans le
ouais.
sens de dire que bah, moi je suis très agréablement surpris que la, on va dire la reprise, de, non pas des affaires, mais en tout cas des podcasts à nous trois se passe plutôt de manière fluide. Je suis très content d'avoir passé ce moment-là avec vous. Et puis, bah, de savoir se dire où est-ce qu'on se retrouve sur les internets. Alors, je sais que Foddy a une dimension de, comme certains de nos chroniqueurs sur Death Podcast, de mystère. Donc, vous pouvez faire passer à la commandante Tour qui transmettra si
oui,
vous voulez échanger avec lui.
Au départ, je faisais pareil avec Will Cook. Moi, j'étais sa secrétaire.
C'est ça. Donc, n'hésitez pas, balancez sur Twitter et Facebook et on transmettra. Sébastien.
Bah écoute, moi on me retrouve toujours voilà, avec TMDJC, les 5 lettres, vous me trouvez tout partout. Alors si c'est le underscore, c'est pour Twitter, effectivement. Enfin, dès que vous allez taper TMDJC sur Twitter, de toute façon, vous allez me retrouver. Puis ce sera marqué sur ma bio, de toute façon, que je fais partie de ce triptyque.
Oui.
On sera vraiment très content d'avoir vos retours, voilà, retours que vous pouvez notamment adresser à des podcasts directement.
Exactement, donc à titre perso, parce que là c'est le but, donc c'est Mehdi, donc at D underscore Mehdi M-E-H-T-I. Tiré du dessous ou du 8 comme on dit, et puis sinon Death Podcast, D-E-E-Z podcast au pluriel, n'oubliez pas le S à la fin, mais on n'est pas beaucoup là-dessus, à part que ça se rapproche de 10h, mais sinon on trouve très facilement Facebook, Twitter, Instagram, on vous mettra, enfin moi en tout cas je m'y engage, on vous mettra probablement des photos de l'exposition, parce que c'était un petit regret, mais c'est aussi une manière pour nous je pense de prolonger la chose avec des petites annotations probablement, donc restez veillés au grain. On avait vu l'ancêtre du Shoryuken pendant l'exposition d'ailleurs.
Même un caméo de David Bowie et de Manuel Valls.
Ah, celui de Manuel Valls, c'était merveilleux. Je crois que je l'ai pas pris en photo, c'est dommage, mais c'est pas grave. En tout cas, il y avait Emmanuel.
On a beaucoup rigolé.
Incroyable.
En tout cas.
On s'est bien amusé. Et Dieu seul sait que ça s'y prêtait pas forcément, mais très très belle exposition. On vous dit ça un peu en mode genre salaud qui vous annonce ça alors que l'exposition sera finie. Mais bon, il restait catalogue qui avait l'air effectivement d'assez
bonne
facture.
Alors moi, j'ai parcouru le bouquin qui est vraiment très bien.
Ouais.
Je trouve ça très cher, honnêtement.
Bah, catalogue.
Voilà, je comprends. Hein, mais bon, là, je trouve ça toujours dommage que la culture coûte si cher. Mais voilà, vous retrouverez non seulement tout ce qu'il y a dans l'exposition, mais d'autres trucs qui sont marqués. Voilà, donc c'est le bouquin est vraiment très très bien.
Exposition rouge.
Et pour terminer, je pense qu'on peut rajouter que si jamais, parce que moi, en tout cas, je scruterai si jamais les gens font un hashtag la fin. Non, c'est la. Attends, que je le dise bien correctement. C'est la fin absolue du monde.
Ouais.
Voilà, donc hashtag la fin absolue du monde. Je l'ai bien dit.
Donc tu t'engages.
Ah ouais, je m'engage à regarder les.
On va faire des tweets très courts.
Des hashtags. Oui, parce que du coup, 240 caractères.
Il reste plus grand chose. Bon, saloperie capitaliste, encore une fois.
Salut.
Sur ce, très chers amis, merci. Et puis n'hésitez pas si aussi on est ouvert. Hein, si vous avez des suggestions, pourquoi pas lâcher, comme on dit, des coms, des étoiles.
Oui,
pas
mettez-nous 5 étoiles. Oui.
Voilà, on n'est même pas dans une demande de dons pour l'instant. En tout cas, c'est pas d'actualité, mais au moins
si,
ça.
Moi, je vais vous laisser mon rib. Alors, donc,
mais en tout cas, ça permet d'avoir un feedback et puis pas de faire ça, on va dire, en vasco. Parce qu'à chaque fois, on croise des gens, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez. Ils nous disent c'est plutôt chouette, machin, mais c'est vrai que on manque de feedback. N'hésitez pas. Le mot de la fin, Afodi.
J'ai envie de dire, pour reprendre Red is Dead, adieu Yuri. Oui.
Pourriture de communiste ignorante.
Allez, ciao.
Ciao.
Ciao.